Pierre Devauluy, le psaume sous les étoiles. Avant-propos. J'ai connu, il y a quelques années, au Pompidou des Cévennes, un vieil original nommé Élie Peyrob, qui était mon arrière-cousin par alliance et m'aimait beaucoup, car à peu près seul, je prêtais une oreille attentive à ses discours. Vieux garçon, il vivait depuis longtemps avec sa sœur Églantine, veuve sans enfant, et fort lettré, musicien accompli, passait des journées entières dans sa bibliothèque, où nul n'entrait en son absence. Les murs de cette immense pièce, qui avait servi longtemps de remise aux fruits, disparaissaient derrière de formidables rangées de bouquins qui envahissaient, même en partie, les ébrasements des grandes croisées à meneaux donnant sur trois horizons. Au centre régnaient de larges tables encombrées de papiers avec un vieux clavecin et un petit orgue de la meilleure marque moderne. Pourquoi Élie Peyrob avait-il quitté, encore jeune, le pastorat, alors que son éloquence sacrée faisait merveille à Montauban et à Nîmes? La cousine Églantine n'aimait pas qu'on l'interrogeât là-dessus, car l'excellente créature occupait sans cesse aux bonnes œuvres huguenotes et particulièrement à la visitation, comme elle disait, des malades, ne pouvait se consoler de ce que son frère eût déserté la chaire apostolique, où, depuis les pasteurs du désert, toutes les générations des Peyrob avaient été représentées avec éclat. Il y avait là pour elle une sorte de courte honte familiale dont il était convenable de parler le moins possible. Tant il y a qu'à l'âge de 35 ans, Élie Peyrob s'était retiré dans sa maison natale du Pompidou, où il vivait largement, ayant peu de besoins, partageant ses heures entre ses livres et de longues courses à pied qu'il faisait dans la région. Il correspondait avec de nombreuses académies, allait souvent à Nîmes, parfois à Paris, consultait des documents, fouillait avec passion les archives des familles, avait rassemblé un assez grand nombre de manuscrits auxquels il tenait beaucoup. Mais sa plus grande joie était de recueillir les thèmes populaires que chantaient encore çà et là quelques vieux pâtres d'Écosse et des Cames. Il les notait en plusieurs parties, reconstituait leurs vers boiteux, les ressemelait, comme il disait, puis il s'extasiait de longs mois, dans sa solitude, à les chanter, s'accompagnant de l'orgue ou du clavecin, selon la nature de la mélopée. Élie Peyrob méritait donc amplement cette qualification de vieil original qu'on lui accordait dans le pays et que je lui ai d'abord donnée. Un jour que j'étais venu lui rendre visite, et cependant qu'Églantine me régalait d'un café comme on ne sait en faire que dans les Cévennes, j'entendis un chant joyeux puissamment porté sur les accords de l'orgue. Et pénétrant dans la bibliothèque, je saluai le cousin Élie, lui demandant quel était ce nouveau thème populaire si vif et gai qu'il venait de découvrir. Il me regarda avec une pitié bienveillante, mais profonde. « C'est vrai, dit-il, tu ne sais pas, toi non plus, tu es comme Églantine. Tu peux entendre sans que ton cœur saute les plus vieux hymnes de ta race. Tu n'as même pas deviné que ce chant est un psaume, le 47e, Omnes gentes plaudite, que notre Théodore de Bèze a si joliment mis en rime françoise, « Ô sus tous humains, frappez en vos mains !» Je ne pus celer mon étonnement. « Un psaume, dis-je, est-il possible ? Quand j'étais enfant, on chantait encore les psaumes dans les temples, et je me rappelle, mon cousin, qu'ils étaient fort endormants et plutôt lugubres. » Élie eut un sourire amer. « En effet, dit-il, on nous les a transmis lugubres et endormants, eux qui étaient toute la joie, l'espérance, la force, l'épanouissement savoureux de la réforme française. On les a tellement sabotés, comme on dit aujourd'hui, que nos enfants s'en sont dégoûtés, qu'ils les ont remplacés par des cantiques barbares venus de Berlin ou de Londres et qui donnent à notre vache à cola, de race si profondément autochtone, je ne sais quel aspect bizarre et camouflé. Ma, je t'en prie, laissons cet objet de douleur. Mais non, cousin, continuez au contraire. Parlez-moi des psaumes huguenots. » Élie Peyrob se leva, marcha fiévreusement de long en large, puis s'étant planté devant moi, il dit avec exaltation. Les psaumes huguenots, ils sortaient du sol comme notre hérésie nationale, construit sur des thèmes populaires dont on peut suivre la filiation depuis les aubes de Guiraud de Borneil et les Cervantes de Guilhem Figuera, ils s'envolaient de nos guérets dans la chanson du Pâtre et du Bouvier. Ils étaient la musique des Gaules par excellence. Il y avait en eux une source abondante de mélodies et d'harmonie qui eût fait de la France le premier pays musical du monde si on ne l'avait tari avant l'heure. « Oui, dis-je, les persécutions. » « Les persécutions sans doute, mais aussi, mon cousin, l'ignorance et la sottise humaine. Tu sais, ou plutôt non, tu ne sais pas, car dans notre siècle de lumière, personne ne sait plus rien. On a remplacé le savoir par le Larousse. Tu ne sais donc pas, dis-je, que les psaumes de Clément Marot et de Théodore de Bèze exaltèrent nos aïeux jusqu'à leur faire voir Dieu face à face, comme le vit Moïse. Ils mirent les paysans sévenols en communication directe avec l'esprit. Ils les menèrent au combat et parfois à la victoire contre des troupes aguerries. Ils suscitèrent parmi eux des chefs de 20 ans, simples bergers qui, un siècle plus tard, eussent été sans doute des maréchaux de l'Empire. Enfin, ils les accompagnèrent sur la roue et en firent des martyrs. Après l'échec de l'insurrection camisarde, quand la réforme fut officiellement abattue, on vit peu à peu venir en Cévennes les pasteurs du désert. Errant de caverne en caverne, ces héros apportaient avec la foi et le courage des martyrs le souvenir, hélas, de cantiques étrangers. Ils trouvèrent sans doute nos psaumes trop vieux, trop paysans, trop directs, et comme le peuple, cependant, y tenait avant toute chose, ils se mirent, les malheureux, à vouloir les retoucher, les moderniser, avec prudence et intelligence d'abord, puis des ouvriers médiocres s'en mêlèrent, et en fin de compte, on nous légua au début du XIXe siècle ce psautier que tu connais et qui est un véritable monstre pour les paroles comme pour la musique. » Élie Peyrobe s'était remis à arpenter la pièce avec agitation. « Ils ont osé, » reprit-il. « Oui, mon cousin, ils ont osé triturer, malaxer, caricaturiser les strophes de Marot et de Bèze. Ils ont prétendu les rajeunir, les pauvres sots, et avec les meilleures intentions du monde, ils ont remplacé, le plus souvent, ces magnifiques poèmes par des vers de Mirliton qui, juste retour des choses d'ici-bas, nous paraissent aujourd'hui beaucoup plus vieillots que le texte admirable, si abominablement et si inconsciemment profané. Cette strophe du psaume 128e, qui se chante sur le thème « La bello margutun des matins s'eslevado » et dit si gentiment « Quant à l'heure de ta ligne, ta femme en ta maison sera comme une vigne portant fruits à foison, et autour de sa table seront tes enfants beaux comme un rang délectable d'oliviers tout nouveaux. Sais-tu ce qu'ils en ont fait? Écoute, par un bonheur insigne, sa femme en sa maison sera comme une vigne féconde en sa saison, elle ornera sa table d'aimables héritiers comme un rang agréable de jeunes oliviers. Et ces beaux vers, si pleins, si clair, si actuel. Miséricorde à moi, pauvre affligé. Ô Seigneur Dieu, car me voilà manger de ce méchant qui me tient assiégé et tous les jours m'oppresse. Mes envieux me dévorent sans cesse, car contre moi un grand nombre se dresse. Ô Dieu très haut, mais quand la peur me presse, en toi mon espoir j'ai. Voici ce qu'ils sont devenus. Regarde, ô Dieu, l'innocent affligé, sans nul relâche, en 1000 ennuis plongés, vois l'ennemi qui me tient assiégé, qui nuit et jour me presse. Ses yeux partout me poursuivent sans cesse. Un camp nombreux joint la force à l'adresse. Mais plus je souffre et plus dans ma détresse, mon âme espère en toi. Hein? Que dis-tu de ce camp nombreux, imaginé de toutes pièces, qui joint la force à l'adresse? Et de ce cri superbe, en toi mon espoir j'ai? Opposé à cette platitude, mon âme espère en toi. Et c'est tout le temps la même chose pour les paroles. Quant à la musique, ce fut peut-être encore pis. On saccagea d'abord le rythme pour le faire entrer de force dans le cadre de la mesure moderne, et on obtint tout de suite des résultats infernaux. La phrase rythmique, si souple et chantante, se trouva coupée en morceaux, séparés les uns des autres par des rondes et des repos, où il y avait des noirs qui se suivaient prestement. On découvrit ensuite que les oreilles modernes ne pouvaient plus s'accommoder de certains intervalles, et on diaisa un peu partout, farouchement, à tour de bras. Enfin, il était réservé aux hommes du milieu du XIXe siècle de méconnaître la musique du XVIe, au point de transcrire en notation moderne la vieille carrée sans queue par une ronde, la carrée avec queue par une blanche, ce qui ralentit l'allure de la mélodie d'un peu plus de moitié, et fit qu'au total, on aboutit à ces façons de rhapsodie lugubre, traînante, endormante, coupée en lambeaux mal ajustés, dépouillée de tous les effets musicaux qui sont leurs caractères essentiels. Quel chef-d'œuvre eût résisté à de pareils traitements, et comment s'étonner que les huguenots de France se soient détournés des chants sacrés de leur race, que l'imbécilité des hommes a rendu ainsi méconnaissable. Et c'est au point qu'à Aigues-Mortes, l'autre jour, les protestants de Nîmes étant allés célébrer le souvenir des martyrs, on a pu voir ce scandale que pas un, tu m'entends, pas un n'a eu l'idée ou n'a été capable d'entonner sur la tour le psaume de l'espérance en Dieu qui servit plus d'un siècle de réconfort aux sublimes captives. Non, ils ont préféré chanter à tue-tête le choral de Luther, comme dans l'opéra de Meyerbeer. C'est incroyable, mais c'est ainsi. Cousine Églantine, qui venait d'entrer sans bruit, interrompit alors son frère. « Élie, dit-elle, tu pèches par orgueil au sujet des psaumes. Je te l'ai dit souvent, tu t'exaltes jusqu'à l'injustice contre d'humbles ouvriers qui firent ce qu'ils purent pour l'avancement du règne de Jésus-Christ. Et je prie le Seigneur que ta parole ne soit pas un scandale au petit troupeau des fidèles. » Peyrobe regarda sa sœur avec une tendresse subite et la baisa au front. « Tu as raison, bonne Églantine. Ta foi est simple et va tout droit sans s'inquiéter des choses passées, car tu les crois mortes. Et je t'envie, tu as choisi la bonne part qui ne te sera point ôtée. » Élie Peyrobe est mort, l'an dernier, me léguant sa bibliothèque. J'y ai trouvé beaucoup de livres rares et quelques manuscrits inédits. L'un de ces manuscrits, qui relate la vie de Jean Peyrobe, aïeul sans doute d'Élie, m'a particulièrement intéressé, et je le publie aujourd'hui, avec le titre que mon vieux cousin lui avait donné lui-même au crayon sur la page de garde, « Le psaume sous les étoiles ».